Bien, bonsoir. Merci d'être là ce soir pour cette séance du cycle Imaginaire des villes. Ce cycle qui a commencé depuis un peu plus d'un an et qui, chaque mois, nous invite dans l'imaginaire d'une ville à travers un film. Et donc là, j'ai le plaisir de vous présenter le très beau film de Françoise Poulin-Jacob, Je vous écris du Havre. Et donc, je remercie Françoise Poulin-Jacob d'être là avec nous ce soir. Et donc dans ces séances, en général, donc, on voit le film et ensuite il y a une rencontre avec le réalisateur, la réalisatrice et un invité qui également travaille sur cette ville. Donc nous avions invité Jean Rollin, qui a beaucoup écrit sur cette ville, mais qui malheureusement est un grand reporter et est souvent invité à voyager un peu partout dans le monde. Et donc malheureusement, au dernier moment, il a dû partir et il ne sera pas là ce soir. Il s'en excuse auprès de vous. Mais Catherine Pontimbert, qui est là avec nous pour présenter et animer la rencontre, lira des extraits d'un de ses livres qui parle du Havre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection. À la fin de la séance, à la fin donc, du film et après la rencontre, le DVD sera aussi en vente si vous voulez l'acheter. Voilà, bonne séance et à tout à l'heure. Merci.
Oui, on va avoir un petit moment d'échange avec Françoise Poulin-Jacob. Et après, bien sûr, on réservera un moment pour les questions. Donc bonsoir à tous. Je commence peut-être par une toute petite présentation pour les personnes qui, dans la salle, ne vous connaîtraient pas. Juste pour dire que vous avez été script pendant plusieurs années et que pendant cette période, vous avez réalisé un premier court-métrage qui était intitulé « Le ruban ». Après quoi vous avez travaillé pour la télévision en tant que script et puis également en tant que réalisatrice. Vous avez réalisé un premier film documentaire, Pavillon de banlieue, c'était en 2005. Et puis vous avez passé plusieurs mois à l'atelier documentaire de la Fémis. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez développé le projet de Je vous écris du Havre. Alors, moi, je trouve que votre film s'inscrit remarquablement bien dans ce cycle des imaginaires des villes, dans le cadre duquel il est projeté ce soir. Mais d'abord, parce que là, je crois que la première chose qui frappe quand on le voit la première fois, c'est que c'est un film extrêmement littéraire. C'est un documentaire, bien sûr, mais c'est une fiction en même temps, à l'intérieur de laquelle il y a une narration très élaborée. On va peut-être en parler de manière plus détaillée. Et la première question que j'avais envie de vous demander, c'est est-ce que le terme d'hybride peut convenir pour qualifier ce film? Parce qu'en fait, moi, je me suis un peu... je trouve qu'il est très difficile de le classer.
Oui, alors ça me l'a souvent dit. Alors hybride, je ne sais pas. Il faut demander au public, je ne sais pas. Mais on m'a souvent dit qu'il était, oui, difficile à classer dans une catégorie, mais c'était un peu voulu. Enfin, justement, je ne voulais pas faire quelque chose de très normé, qui rentrait dans une case très définie. Mais à l'origine, je voulais faire de toute façon quelque chose de très littéraire. Donc ça, c'était voulu.
Mmh. Oui, avec dans le récit, dans la narration... le passage du elle, ça commence par elle au début, puisqu'il est question d'une petite fille qui est vous, en fait, hein, celle qui est reliée à l'enfance. Mmh. Puis après, à un moment dans le film, on passe au tu, et puis enfin, vous arrivez au jeu. Je dis enfin, parce que vous auriez pu l'écrire entièrement à la première personne.
Ah non, pas du tout. Non, l'idée, c'était aussi de proposer ce cheminement à travers le temps, les époques, les différentes strates de personne qui peut y avoir. Non, c'était pas possible de l'écrire à la première personne dès le départ. Mm.
Il y a cette idée très forte qui, moi, m'a beaucoup séduite dans le film, qu'une ville, Le Havre en l'occurrence, puisse être rattachée à l'enfance et évoque de l'enfance. Et comment faire le lien entre une ville et l'enfance ?
Alors là, c'est très personnel parce que le Havre a toujours, depuis que j'ai 6 ans en fait, évoque l'enfance pour moi. Enfin, c'est voilà, la première fois que je suis venue au Havre, j'avais 6 ans, comme c'est dit dans le film, en visite avec mes parents pour voir le France, et j'ai vraiment été fascinée par cette ville. Et le nom du Havre, la ville du Havre, à chaque fois qu'on évoquait quelque part le Havre, ça me replongeait irrésistiblement dans l'enfance. Alors ça, c'est très personnel, parce que j'ai jamais vécu au Havre. Hein. J'ai aucune famille havraise, aucune acquaintance avec le Havre, enfin, ni professionnelle, ni familiale. Mais pour moi, c'est l'enfance. Le Havre, c'est l'enfance. Parce que aussi, c'est cette époque de la reconstruction où émergent ces bâtiments très, très haut perchés, très rectilignes. Cette modernité du béton, moi à l'époque j'habitais dans Paris, mais dans un vieil immeuble, pas du tout dans quelque chose de moderne. Voilà, c'était un symbole de modernité, de nouveauté, d'un monde qui m'était comme ça offert, un symbole de promesse en fait. Mmh. Voilà.
Mmh. Oui, ça c'est la deuxième grande idée force du film, c'est le fait que cette ville est une incarnation de la modernité. Est-ce que pour autant, je crois que bon, votre film répond en partie à cette question. On ne peut pas dire que ce soit une ville nouvelle.
Non, surtout pas. Mm. Parce qu'une ville nouvelle, c'est une ville comme Cergy-Pontoise, comme Marne-la-Vallée. Enfin, ce sont des villes qui ont été bâties sur rien. Enfin, il y avait des petits villages. Mais les constructions nouvelles de Marne-la-Vallée ou de Sarcelles ou de Cergy, enfin, je pense à celle-là, ont été faites sur des terrains agricoles. Donc, il n'y avait pas de vie... avant, tandis que le Havre a été rebâti sur une ville préexistante. Donc non, c'est absolument pas une ville nouvelle.
Avec cette idée très belle qui est évoquée dans le film, qu'elle repose sur un matériau composite qui est précisément le matériau de son histoire.
Exactement.
C'est invisible, mais l'histoire est là.
Oui, parce que même concrètement, enfin, c'est pas qu'une image. Hein. Concrètement, tout n'a pas été déblayé, parce qu'il y avait tellement de gravats à dégager, qu'il en est resté. Et comme c'est dit dans le texte, la ville, la nouvelle, enfin, je ne peux pas dire la ville nouvelle, mais la ville actuelle, a été surélevée d'un mètre par rapport à la ville ancienne. Donc c'est tout ce qui restait, qui n'a pas pu être dégagé, donc qui est fait, un matériau donc qui est fait de gravats, d'ossements aussi, puisqu'il y a eu des disparus dans les bombardements, de restes de vie ménagère, enfin de vaisselle, de meubles, mobilier, enfin de... voilà. Mmh.
Et puis, pour Auguste Perret, donc, qui prend la tête de cet immense chantier de reconstruction, il y a l'idée d'une ville idéale aussi. Et ça, c'est encore une couche qui vient s'ajouter, justement, dans les imaginaires autour de cette ville.
Oui. Alors, l'idée, c'était... Auguste Perret avait été nommé donc, par Raoul Dautry, qui était le ministre de la Reconstruction, pour reconstruire le Havre, et que... Il était censé faire une reconstruction rapide qui serait en quelque sorte un modèle pour la reconstruction de toute la France, enfin de toutes les villes qu'il y avait à reconstruire en France. Bon, en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La ville, Le Havre, a été reconstruite très rapidement. En 3 ans, les premiers habitants ont pu revenir dans des logements. Les dernières constructions ont été faites en 1963, mais déjà la ville était réhabitée depuis 1948 en partie. Et voilà, ça devait être un symbole, un modèle de la reconstruction et servir pour tous les travaux d'architectes à venir dans les années 50. Bon, en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La reconstruction a été assez anarchique dans certains endroits. Il n'y a pas eu de concertation. Je ne vais pas citer d'autres villes reconstruites, mais on pense à Boulogne-sur-Mer, on pense à Lorient, qui ne sont pas des villes qui ont été reconstruites avec autant de style et d'harmonie qu'au Havre. Voilà.
Dans un premier temps, les Havrais, et d'ailleurs, Jean Rollin, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais qui avait consacré dans le magazine Géo un article au Havre, évoque ça. Les Havrais ont plutôt mal réagi à cette esthétique qu'ils ont dans un premier temps jugé, un terme qui revenait souvent, stalinienne.
Oui, ouais. Oui, les premiers... Enfin, les premiers habitants qui avaient connu le Havre d'avant, et qui ont redécouvert leur ville reconstruite ont eu un refus de cette ville. Et en réalité, il a fallu plus de 30 ans, près de 40 ans, pour que les Havrais aiment leur ville. Ça, c'est assez récent, cet amour des Havrais pour leur ville. En même temps, il faut du temps pour aimer sa ville, pour l'appréhender, la reconquérir. Moi, je pense que c'est normal qu'il ait fallu trois ou quatre décennies pour que... Voilà, c'est un traumatisme, une ville entièrement détruite. Et puis, trois ans, vous revenez habiter dans une rue, dans une adresse qui était la vôtre avant, mais qui ressemble en rien à ce que vous avez connu pendant 20 ans ou 25 ans. Donc moi, je comprends que les Havrais aient mis tant d'années à se réapproprier leur ville. Et puis maintenant, bon, il y a une génération qui est passée, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui aime sa ville profondément. Les Havrais, maintenant, ont vraiment un amour, un attachement formidable à leur ville. La ville a été classée, en plus, en 2005, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été vraiment quelque chose de formidable pour eux, quoi.
C'est vrai que c'est une ville qui a un rapport à la mémoire et au passé qui est extrêmement complexe et très riche. Et alors dans le film, ce qui est formidable, c'est le fait d'aborder cette question-là grâce au recours aux cartes postales, qui est un peu votre marque de fabrique, là, vraiment, en tant que réalisatrice. Il y a ça, ce désir d'intercaler les images tournées et puis les images de ces cartes postales, d'affiches aussi, quelques-unes, voilà. Donc ça donne une matière historique très, à la fois très présente, très forte et très vivante.
Eh bien, tant mieux.
Je trouve, hein, c'est...
Merci. Mais l'idée, c'était aussi de... comme le Havre symbolise vraiment l'enfance pour moi, mais cette enfance est révolue depuis longtemps, mais il y a comme un arrêt du temps qui s'est passé là, dans cette ville. Donc... Entre les cartes postales, les tournages qu'on a faits, le film a été tourné il y a 4 ans, qu'on a fait nous-mêmes, les cartes postales qui sont toutes des cartes postales des années 50 et 60, je voulais tricoter ce temps qui s'est un peu stratifié pour moi, qui s'est arrêté au Havre quelque part. Mais qui pourtant, cette modernité qui était montrée dans toute cette imagerie, quelque part, elle est quand même révolue. Parce que les gens ont vieilli, parce qu'on a vieilli, j'ai vieilli, parce que voilà, le temps passe. Mais voilà, il reste quand même un parfum de cette époque là-bas et dans les cartes postales.
Je ne sais pas si c'est à cause des cartes postales ou bien... peut-être les deux d'ailleurs, ou à cause de la bande-son qui est remarquablement travaillée et qui est très très... C'est vraiment le son dans ce film est très fort. Mais moi, j'ai beaucoup pensé à Jacques Demy, énormément. Mademoiselle de Rochefort, c'est incroyable. Au début, il y a une succès... Enfin, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas la seule, mais voilà. Donc, il y a tout cet imaginaire-là qui est aussi celui de Jacques Demy, de la comédie musicale, de l'architecture des fenêtres. Il y a des moments où il y a des plans de fenêtres ouvertes, exactement comme dans les Demoiselles de Rochefort. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui cinéma qui vous a nourri.
Bien
ou...
sûr, quand j'étais petite fille, Mademoiselle de Rochefort, c'est toujours mon film.
Oui. Voilà, une sorte d'idéal.
Que j'ai vu des centaines de fois, et c'est toute cette imagerie colorée, dansante, gaie. Pour moi, c'est aussi ça, le Havre. C'est cette époque-là. Et je voudrais citer Jean-Marc Lautel, qui est dans la salle. Je ne le vois pas parce que je suis un peu éblouie, mais dans le coin. Jean-Marc a fait le son du film. Et voilà, que le son est vraiment apprécié chaque fois que le film est projeté, parce qu'il a fait un vrai travail d'orfèvre.
Alors, il y a quand même une chose, si Jean Rollin était là, on pourrait dire qu'il vous différencie fondamentalement tous les deux dans votre approche de la ville, c'est que chez vous, on voit à peine le fait que le Havre est un port. C'est pas ça qui vous intéresse?
Non, du tout. Donc, ça m'intéresse pas du tout, puisque la première fois que j'y suis venue, c'était pour aller voir le France avec mes parents, mais il m'en reste... pas grand-chose du port, du France, si je me souviens de l'avoir vu, mais bon. Mais ce qui m'a marqué tout de suite, c'est le centre-ville.
L'architecture, quoi.
Ça n'aurait pas été une ville portuaire. J'aurais autant aimé le Havre. Voilà. Mmh. Mais bon, ce qui m'intéresse aussi chez Jean Rollin, c'est cette vision totalement différente,
oui.
Cet autre point de vue sur la ville. Oui. Lui ne voit que le port.
Lui ne voit que le port et ne s'intéresse qu'au port. Alors, comme on l'a annoncé tout à l'heure, oui, bon, comme il n'est pas là, mais pour qu'il soit là quand même, je vais faire une toute petite lecture d'un tout petit extrait de Terminal Frigo, qui est donc ce texte, qui est une sorte de déambulation sur le littoral français, avec des escales qui sont toutes, bien sûr, dans des ports très importants, et tous les textes sont reliés aux activités des ports. Il y a Saint-Nazaire, il y a Calais, et bien sûr, il y a Le Havre. Et voilà donc un tout petit extrait de la vision de Jean Rollin, qui n'est pas la vôtre. Au Havre, on peut dater de 1965 le moment où le port, avec le rescindement, c'est-à-dire en gros la destruction de la digue est du bassin Théophile du Croc, fait exploser les limites dans lesquelles il était contenu depuis la reconstruction de l'après-guerre. Dans son expansion vers le sud-est, une nouvelle étape est franchie avec l'ouverture, en 1971, de l'écluse François Ier, puis avec la mise en service de la darse de l'océan. Ces transformations dans l'ensemble sont étroitement associées au développement du transport des marchandises diverses par containers. Ces derniers, en effet, nécessitent autant d'espace pour leur manutention ou leur stockage qu'ils font économiser de temps et de main-d'œuvre en s'adaptant à tous les moyens de transport terrestres ou aquatiques. La première escale d'un navire porte-container au Havre date de 1966. En franchissant le pont 6, à l'extrémité occidentale du bassin Marcel de Pujol, on pénètre sur un territoire que les transformations du port du Havre ont fini par insulariser complètement. On s'aligne d'autre part sur un axe formé successivement par l'avenue de l'Amiral du Chillon et la route de l'estuaire qui dessert tous les terminaux à containers. Avant de rejoindre le pont de Normandie. Sur cet axe, ou sur celui perpendiculaire défini par l'avenue du 16e port, on est à tout moment secoué par les masses d'air que déplacent les poids lourds, lesquels ne sont pour la plupart que des containers en mouvement. Situé à l'intersection de ces deux axes, le quartier des Neiges est, à ma connaissance, le seul en France dont les habitants vivent cernés par des installations portuaires en continuelle expansion, menaçant de les étouffer ou de les submerger, si proches que de presque partout on peut entendre les alarmes sonores des engins de manutention et le choc sourd des conteneurs saisis par les spreaders ou se posant plus ou moins bruyamment selon le doigté du portiqueur. À l'ouest des Neiges, le boulevard de Graville se termine en cul-de-sac le long de la clôture du terminal de l'Atlantique, au pied d'une usine d'incinération des ordures, aujourd'hui fermée, mais toujours utilisée par la voirie comme lieu de stockage. Un peu en retrait se dressent les deux cheminées de la centrale électrique, de laquelle émanent des câbles à haute tension portés par des pylônes. À l'est, on aborde les Neiges par la rue des Chantiers, bordée sur la gauche de HLM peu élevée, tandis que dans le reste du quartier, ce sont les pavillons qui dominent, petits pour la plupart, et souvent autoconstruits. Les populations des uns et des autres ne se mélangent guère. La première chose que l'on remarque, côté HLM, c'est une ancienne supérette dont les ouvertures ont été murées, puis des rez-de-chaussée inhabités et en grande partie dévastés. Enfin, un abribus, correspondant à l'arrêt Chateaubriand de la ligne numéro 3, dont seul subsiste le cadre métallique. Un peu plus loin sur la droite, un carré d'herbe rase marque l'emplacement d'une salle d'animation municipale, cramée dans la nuit du 31 décembre 2000 par des jeunes issus des HLM, dont les déprédations ne sont peut-être pas étrangères à l'animosité ou à la crainte qu'ils inspirent à certains habitants plus âgés de la partie pavillonnaire. Dans celle-ci, dont la plupart des rues portent des noms de résistants inconnus du grand public, et d'autres héros locaux de la classe ouvrière, on ne peut faire un pas sans être pris à partie, au moins vocalement, par des chiens. Voilà, un tout petit extrait de Terminal Frigo. Et alors c'est vrai que ce n'est pas du tout la même vision, et en même temps je me disais que dans le texte de Jean Rollin, il y a des choses que vous auriez pu filmer, cet arrêt de bus.
Oui, enfin, je vois très bien l'emplacement de, enfin, le quartier des Neiges et tout ce quartier que je connais bien. Sauf que ça ne s'inscrit pas dans le périmètre Perret et que je voulais vraiment rester dans le triangle centre-ville Perret. Là, on est en dehors de ça, mais en fait, il dit quelque part la même chose que moi, c'est que le temps aussi s'arrête. Enfin, voilà, c'est le quartier des Neiges, c'est vraiment un endroit extrêmement particulier, qui est vraiment ce qui reste de l'ancienne ville du Havre avant qu'elle soit rasée par les bombardements. Et ça n'a pas bougé, c'est resté tel que c'était dans les années 20, 30, 40. Ce sont des petites maisons, comme il dit, autoconstruites. C'est des maisons habitées par des dockers, des ouvriers qui travaillent sur le port ou aussi quelques pêcheurs. Et c'est dans la zone industrielle, entre les cheminées, etc. Ça n'a pas bougé. Beaucoup de boutiques ont fermé. Elles sont restées telles qu'elles ont été le jour où elles ont fermé. Alors, il y en a depuis 30 ans, 40 ans. Elles sont restées comme ça. Ça n'a pas bougé. C'est figé. C'est une autre époque qui s'est figée là. Mmh. Comme si cette ville figeait le temps. Mmh. Quelle que soit l'époque, elle fige le temps.
Oui, et puis en plus, elle est restée complètement inchangée. C'est comme un décor des années 60, parfaitement, presque intact.
Presque intact, oui.
Alors, il y a bien sûr dans le film cette attention extrême à l'architecture, parce que le film est porté par ça. Et puis, ce côté, j'aime bien aussi le fait que c'est presque une ville arithmétique, avec ce fameux chiffre-là. Oui, oui. Au début, c'est assez magique, c'est un peu comme un code secret.
Oui, c'est un code secret. c'est le nombre d'or de Perret, qui est à la base de tous ces calculs d'architectes. Et c'est ça aussi qui... c'est 6-24, c'est la base de ces calculs. Toutes les constructions, que ce soit les bâtiments, les voiries, tout est un multiple de 6-24, ce qui donne cette harmonie totale de la ville.
Alors, l'harmonie de la ville, en tout cas ce qu'il en ressort quand on regarde votre film, elle tient beaucoup à une chose... C'est la présence de ce fameux matériau, le béton. Et je trouve qu'il y a une sorte de poésie du béton. Enfin, c'est incroyable parce que c'est a priori un matériau qu'on a tendance à considérer plutôt comme rebutant et peu sensuel. Et là, c'est exactement l'inverse. Ce que vous en montrez est vraiment, très sensuel.
Mais c'est Perret qui a magnifié le béton formidablement bien en utilisant sa capacité solide de construction, mais aussi sa texture, puisqu'il y a différentes textures de béton. Lui, il a vraiment joué sur toutes les textures qu'on pouvait avoir avec ce matériau, et puis sur sa couleur en mettant quelques pigments. Et Perret a compris cette chose formidable qu'il y a en Normandie, c'est la lumière. Parce que quoi qu'on en dise, en Normandie, il y a la plus belle lumière de France. Monet s'y était pas trompé. Monet est né à Sainte-Adresse, à côté du Havre. Mais les impressionnistes, en général, ne s'y sont pas trompés. C'est bien en Normandie qu'ils sont venus peindre. C'est une lumière douce et totalement changeante au fil des saisons et au fil de la journée. Et Perret a compris ça et a donné au béton des pigments... des légers pigments, mais qui ont permis donc à la lumière de magnifier cette couleur, cette lumière qui illumine la ville. Ouais.
Il y a une petite citation de Perret au sujet du béton que j'ai relevée, où il dit « On reproche au béton son aspect ingrat, mais jamais une matière ingrate n'a nuit à la beauté d'une architecture. Au contraire, elle met en évidence ses qualités spirituelles. » Et il y a une sorte de spiritualité dans cette ville. D'ailleurs, il y a Les très beaux passages sur l'église, là, que vous avez magnifiquement filmé. Oui. Mm.
L'église est vraiment est un chef-d'œuvre. C'est un bâtiment. Alors, c'est un des deux bâtiments que Perret a entièrement signé, puisque bon, Perret est le maître d'œuvre de la reconstruction de la ville. Donc, il a délégué aussi certains bâtiments. Enfin, il supervisait tout de même, hein, mais il a délégué à certains architectes, certains bâtiments, mais il a signé entièrement l'église Saint-Joseph, que vous avez vu dans le film, et l'hôtel de ville. Et malheureusement, il n'a pas vu l'achèvement total de l'église Saint-Joseph, puisqu'il est mort avant l'achèvement, il est mort en 1954, et l'église n'était pas totalement terminée.
Bon, on va peut-être donner la parole au public. Il y a juste une toute petite dernière chose que j'avais envie de vous demander, parce que cet article de Jean Rollin, là, que je citais tout à l'heure, qui était paru dans le magazine Géo, commençait par le fait que Jean Rollin disait que ce que Le Havre a fait de mieux, c'est de donner naissance à Raymond Queneau. Et je me suis demandé si dans votre imaginaire du Havre, dans vos déambulations de la ville, vous aviez de temps en temps pensé à Queneau.
Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai pensé à tous les écrivains havrais, et bien sûr en premier lieu à Raymond Queneau. Et je savais que ses parents avaient une mercerie que j'ai cherchée longtemps, parce que je ne retrouvais pas l'adresse, mais j'ai fini par la trouver. C'est plus une mercerie, mais j'ai trouvé l'emplacement du magasin. C'est dans une partie du Havre qui est dans l'ancienne ville qui n'a pas été reconstruite. Mais oui, bien sûr, j'ai pensé à Queneau tout le temps. J'ai beaucoup lu Queneau avant de faire le film, mais aussi Armand Salacrou, qui avait d'ailleurs la bibliothèque porte son nom, qui avait une maison au Havre. Voilà, enfin, tous les. À Pascal Quignard, qui même s'il n'a pas beaucoup parlé du Havre dans ses écrits, est un écrivain havrais. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Voilà, j'ai été nourrie de tous ces gens-là, bien sûr.
Mmh. Bon, ben. Voilà, on peut ouvrir peut-être un deuxième temps d'échange. Sachant que c'est toujours la première question, bien sûr, la plus difficile, ça on sait. Voilà, ça y est, elle va être posée.
Je vais aider à lancer. Est-ce que vous avez présenté votre film au Havrais et comment ils ont réagi ?
Alors oui, bien sûr que je l'aurais présenté. Ils ont plutôt bien réagi. Ils ont aimé le film. Enfin, ils m'ont beaucoup aidé aussi, il faut dire, quand je l'ai écrit, quand je l'ai fait, avant de le faire, quand je l'ai préparé. Ils avaient hâte de le voir. Dans l'ensemble, oui, ils ont bien réagi. Oui, toute génération confondue. C'est des gens très, très, très âgés que j'ai rencontrés, parce que je tenais à rencontrer des gens très âgés qui avaient connu le Havre avant, donc des gens qui ont maintenant 90 ans, enfin à peu près, mais aussi des gens qui ont mon âge, puis des gens plus jeunes qui n'ont connu que la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Et non, toute génération confondue, le film a été plutôt bien accueilli.
C'est drôle d'ailleurs parce que, pour compléter cette question, finalement dans le film il y a la présence des corps, mais dans la partie carte postale, il n'y a pas de Havrais, il n'y a pas de personnage dans le film filmé, hein, dans la partie contemporaine.
Non, ça c'était, c'était voulu.
Mmh, oui.
C'est le personnage et la ville.
C'est la ville.
Ouais. Après, dans cette histoire où le personnage est une ville, il y a des figurants, il y a des fantômes, mais il n'y a qu'un personnage. Non, c'était voulu au départ, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, quand j'étais à l'atelier documentaire de la FIMIS, il y a un représentant de l'atelier qui est dans la salle d'ailleurs, Jacques Deschamps, et on me remettait toujours ça en face, tu auras du mal à écrire un film où il n'y a pas de personnage. Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas j'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais faire.
En fait, moi, je trouve qu'il y a plein de personnages, et les personnages, c'est les personnages des cartes postales, justement.
Donc, oui, mais ils sont là aussi comme des fantômes, comme les fantômes de cette époque. Ils sont là, oui, bien sûr. Et pas uniquement les personnes photographiées sur les cartes postales, il y a aussi ceux qui les ont écrits, qui sont aussi, même si on ne les voit pas, s'ils ne sont pas représentés, mais ils sont là, présents. Quoi.
Ceux qui ont envoyé les cartes.
Voilà, ceux qui ont envoyé les cartes. Ouais.
Oui, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez choisi l'art de la fugue de Bach comme musique, et surtout dans cette version des Single Singers.
Alors, il y a quatre versions dans le film. C'est quatre fois le même morceau, mais interprété donc une fois par les Single Singers. Oh, j'arrive plus à parler. Je l'avais dit mieux. Il y a quatre interprétations, donc au clavecin par Gustave Léonard. Il y a à la fin dans l'église par l'organiste de l'église, Pascal Estrier. Parce que l'art de la fugue, c'est une trame de travail qu'on recommence sans cesse. Et l'atelier de Perret, c'était du travail recommencé sans cesse. C'est pas du premier coup que l'atelier a réussi à construire cette ville. Il y a eu des essais, des tentatives, on a recommencé. Et pour moi, ça symbolisait tout à fait. C'était un parallèle.
Une autre question ?
Merci. Oui, d'abord bravo pour ce vraiment très beau film, très Merci. Émouvant. Et donc moi j'étais dans l'atelier et je l'ai vu un peu naître. Et d'abord je trouve pas qu'il n'y ait pas de personnage, parce que tu as rendu hommage à la personne qui a fait le montage son ou qui a fait la bande sonore du film. Il est très habité le film. Moi, je trouve que toutes les voix, que ce soit les voix d'enfants, les voix des témoins, les voix enregistrées qui viennent des archives, font que cette ville est entièrement peuplée et que le film est, moi, je le trouve très habité et je trouve très beau d'avoir réussi à faire que ça soit précisément par la voix et par les voix. Ensuite, vous avez beaucoup parlé des cartes postales dans votre dialogue. Mais il y a aussi ces archives Super 8 ou films amateurs, moi je trouve absolument magnifiques. Donc là j'ai une question, c'est-à-dire comment s'est faite la recherche et d'où viennent les images, puisque même si le film est à la troisième personne, puis à la deuxième, puis à la première, on a l'impression d'un rapport extrêmement intime avec la ville, et c'est renforcé par les archives. Et puis la dernière chose que je voulais dire, mais je suis curieux de savoir d'où viennent ces archives, c'est que je trouve très beau la façon dont, précisément, on fait très peu appel à certaines archives, comme celle de la destruction. Le moment de la destruction, c'est à la toute fin de ce chapitre-là qu'on a, je crois, trois photos. Et la façon de nous montrer la ville détruite en nous montrant les galets de la plage, tout ça. Je trouve que si le film a une part littéraire, parce qu'il est très écrit avec cette voix off qui a un caractère vraiment littéraire, je trouve que c'est un très bel objet, surtout cinématographique. Et que l'utilisation, par exemple, d'images qui ne sont pas celles qu'on attend pour illustrer un propos, c'est une très grande force. Donc, bravo.
Alors, merci beaucoup, Jacques. Ça fait plaisir. C'est effectivement, Jacques a assisté à la naissance du projet. Alors, d'où viennent les archives ? Alors, au départ, je voulais pas d'archives filmées. Je voulais uniquement utiliser des cartes postales ou des photos fixes. Je voulais absolument pas d'archives filmées. Et en fait, le film s'est fait en collaboration avec le pôle image Haute-Normandie. Et j'ai été contactée à un moment par... Agnès Delforge, qui s'occupe de la banque d'images du pôle images. Elle m'a dit voilà, je vais quand même vous montrer ce que j'ai. Donc c'est une banque d'images d'amateurs, donc des personnes qui donnent des films d'amateurs. Donc elle m'a dit, je sais que vous voulez pas d'images fixes, mais venez quand même voir ce que j'ai, on ne sait jamais. Alors je suis allée à Rouen où ils sont, voir visionner des choses, et je tombe donc sur des films de cette famille avec la maman qui promène une petite fille et son petit garçon un peu partout. Et bon, c'est vrai que là je me suis dit la petite fille, elle a à peu près l'âge que j'avais à cette époque, elle a un manteau rouge, j'avais toujours un manteau rouge à l'époque, des lunettes comme moi, enfin voilà, il y avait quelque chose qui faisait écho. Et puis bon, il y avait ce plan sur la jetée à Orly qui me plaisait énormément, que je voulais absolument mettre dans le film. Donc j'ai trouvé moyen de... Voilà, ça avait sa place. Et je pense qu'effectivement, ça renforce, comme tu dis, ce caractère d'intimité qu'il y a entre la ville et moi. Et on m'a souvent demandé si la petite fille, c'était moi. Non, c'est pas du tout moi. Je l'ai même jamais rencontré. Par contre, j'ai rencontré son frère lors d'une projection. Un jour, il était là et il est venu se présenter. C'était assez rigolo, d'ailleurs.
Je vous remercie sur les gentilles choses que vous avez dites sur la bande-son. C'était juste dans le cadre de cette soirée. Je crois qu'il n'y a rien de plus réel que l'imaginaire et qu'une ville n'est composée que de l'imaginaire de ses habitants et que c'est ça qu'il faut faire parler. C'est la somme de tous ces gestes de tous les jours qui constituent une ville, et les gens en disent autant par leurs propos, leur attitude, leur démarche que par de longs discours. Merci de l'avoir remarqué.
C'est Jean-Marc qui a fait le son du film.
On pourrait dire, peut-être pour compléter ça, c'est que souvent ce sont les signes en fait qui donnent accès à l'imaginaire, et c'est vrai qu'une ville c'est rempli de signes, quoi.
Oui, de signes, de signaux, de oui, c'est oui, tout à fait. Oui.
Signes sonores, visuels, enfin oui, il y a plein de.
Tout à fait.
C'est un matériau extraordinaire. Enfin, une ville est un matériau.
C'est sans fin.
Vous avez l'intention de continuer à travailler sur les villes de manière générale?
C'est vraiment un vague projet, mais qui se précise. Mais là, actuellement, je travaille sur un film, tout à fait autre chose. Mais après, j'ai envie de travailler sur deux villes, sur un projet sur deux villes lié à un architecte encore, parce que travailler sur l'architecture me plaît énormément. Et voilà, mais c'est à l'état de projet encore.
Est-ce qu'il y a encore une ou des questions? On dirait que non. Bon, mais alors, mais merci infiniment pour ce film. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci. Et la prochaine séance est le 13 mars avec un film qui s'appelle Braddock America, sur cette ville de Pennsylvanie, Braddock, qui, un peu à l'image de Détroit, a connu un déclin après un essor économique. Voilà, merci, bonne fin de soirée.